au logement tout neuf. Quand ils vont déplacer les marchés, ça va être un petit peu gênant parce qu'ils vont être divisés, on va se déplacer. Donc les habitants vont manquer de repères parce que depuis 40 ans, le repère, c'est ici.
Ce qui est intéressant dans cette intervention, c'est que le commerçant du Châtelet disait que grosso modo, en fait, ils vont les déplacer derrière l'école Villon et Rameau, mais qu'ils n'ont pas été concertés, ils n'ont pas été consultés aussi. Ils n'ont pas été mis dans la boucle entre eux et les services de la mairie. Donc ça, c'est un peu le côté sombre de l'histoire. Et je vous propose d'écouter une habitante aussi qui nous a parlé au micro.
Je pense que c'est une très bonne chose. Rénovation dit renouveau, en espérant que ça va redynamiser le quartier, reproposer des nouveaux services de proximité en faveur des habitants de nos quartiers. Et on espère que ça va se finir très vite, parce qu'on a hâte, ça fait du bruit.
Ça fait beaucoup de bruit, effectivement, pour avoir été sur le marché avec Amy et Tom, qui vont se présenter dans quelques instants. L'environnement du marché a toujours été le même, c'est-à-dire que les mamas qui déambulent dans les allées en regardant ce qu'ils peuvent acheter, ce qu'ils ne vont pas acheter, les marchands de légumes vendant leurs fruits et légumes. On sent toujours cette atmosphère, on va dire, conviviale. Et à la fois de partage, d'environnement solidaire. Moi, ce qui m'a plus choqué pour être un habitant du quartier et aussi un travailleur à la radio HDR, c'est quand j'ai tourné ma tête en regardant les tours de l'eau, je me suis dit, waouh, il est passé où le bâtiment où on était ?
Eh bah oui, effectivement, hein, comme on peut le voir sur nos réseaux sociaux, hein, avec la photo qui a été prise hier, qui fait le avant-après, hein, vous savez, hein, cette fameuse comparaison qui est présente sur les internets. Eh bien voilà, effectivement, il y avait une porte avant, et là il n'y a plus rien, il n'y a plus que le marché, enfin la place du marché que l'on aperçoit. C'est assez édifiant, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est peut-être un bien pour un mal, comme il est bon temps de dire. En tout cas, ce nouveau programme national de renouvellement urbain, hein, comme il est de bon temps de le dire, a pour but la transformation profonde de ces quartiers grâce à des investissements massifs, notamment sur l'habitat et les équipements publics de la part de l'État et des collectivités locales, bien évidemment. Est-ce que vous savez un petit peu combien de temps vont se prolonger ces travaux?
Ils vont se prolonger, en fait. Ils ont commencé là, parce que c'est le Rousseau, en fait, qui a déclenché véritablement la rénovation du Châtelet jusqu'en 2030-2032.
Ah ouais, d'accord, ok. Effectivement, ça va durer quand même encore un petit peu de temps. En tout cas, tout ça, c'est pour dire quand même qu'il y aura des améliorations, ou en tout cas des choses faites, hein, puisque 1120, c'est le nombre de logements sociaux qui seront réhabilités dans le cadre de ce programme. Très précisément, 940 sur les Hauts-de-Rouen et 180 à Grammont. 844, c'est le nombre de logements sociaux qui seront démolis dans le cadre de ce programme, et 169 millions d'euros, c'est le montant de l'investissement prévisionnel sur les logements et l'aménagement de l'espace public, bien évidemment, et les équipements publics, principalement porté par la ville et les bailleurs sociaux, en premier lieu Rouen Habitat, avec le soutien financier de l'État et des partenaires institutionnels. Bon, voilà, on sent que c'est un maillage financier très très lourd et qui met énormément de temps, en fait, à se déclencher, à se mettre en place. Et puis ça met aussi énormément de temps à se faire en physique sur le terrain.
Parce que c'est l'ANRU aussi, en fait, c'est un projet national qui s'appelle l'ANRU. L'ANRU a été construit pour ça, pour renouveler tous les quartiers, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux qui sont un peu plus jeunes, c'est que pendant les années 80-90, voire les années 70-60, on a voulu construire vite. Et en construction vite, on n'a pas pensé, en fait, on pensait que les immeubles allaient durer 20 ans. Or, ça fait depuis, on prend l'immeuble Rousseau, ça fait depuis les années 60 qu'il existe, le manque de chauffage, les ascenseurs qui tombent en panne, etc., etc. La rénovation urbaine doit se faire. Donc, ils ont décidé de casser pour construire mieux. D'où le fait que ça a pris du temps. Et puis, je vous passe les détails de la crise Covid qui a retardé aussi le projet. Donc, tout ça pour dire que, là, maintenant, grâce au 9 avril, ou à cause du 9 avril, en tout cas, à cause du commencement de la démolition du Rousseau, le chantier est vraiment lancé.
Et vous pouvez réagir hein, si vous le souhaitez, chères auditrices et chers auditeurs, notamment sur nos petits réseaux sociaux, hein, avec en commentant par exemple sur cette photo publiée hier avant-après. Hein, voilà. Si,
mettez-nous vos souvenirs, tiens.
Vos souvenirs, vos photos de cette place emblématique des Hauts-de-Rouen où bon nombre, de marchands, d'habitants se sont déplacés. C'est l'occasion justement de découvrir et de partir à la rencontre de nos chers stagiaires qui sont Amy et Tom. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Eh ben écoutez, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille. Vous avez notamment accueilli Naïm hein, lors de ce micro-trottoir. Vous venez ici dans quel cadre en fait vous faites des études pour travailler plus tard dans les médias, c'est ça?
Alors, on est en deuxième année de BUT MMI, donc métier du multimédia et de l'internet.
Ah ouais.
Et c'est une formation un peu touche-à-tout, dans le sens où on va faire de la stratégie de communication, la création graphique ou même du développement web.
D'accord.
Donc c'est vachement large. Ouais. Ce qui nous permet du coup de pouvoir faire par exemple venir en radio, faire du contenu sur les réseaux sociaux et plein d'autres choses comme ça.
D'accord. Et du coup, c'est une formation qui est disponible à Rouen.
Nous, on est sur le campus d'Elbeuf.
Ok.
Mais
à côté, quoi.
Oui, exactement. On n'est pas si loin que ça. Et après, je crois qu'il n'y en a pas à Rouen même, mais c'est à côté, Elbeuf, donc ça va.
Et du coup, c'est une formation qui se déroule sur combien de temps?
C'est une formation en 3 ans, puisque c'est un BUT.
D'accord, oui. Effectivement. 3 années donc passées à Elbeuf et aussi donc sur vos lieux de stage. Vous avez des stages à réaliser régulièrement au cours de ces 3 années. On va demander justement à Monsieur Tom.
Oui.
Rapprochez-vous un petit peu du micro.
Pardon.
Je vous en prie.
Oui, donc ce stage il nous est demandé pour valider notre deuxième année. Donc ce stage dure environ 2 mois. Et du coup, l'année prochaine, si on valide cette année-là, en troisième année, on aura un autre stage, cette fois-ci qui va durer plus longtemps, de janvier à juin, je crois, quelque chose dans le genre.
D'accord, ok. Et de ce fait, vous étiez déjà intéressé par tout cet univers de création sur les outils digitaux, peut-être une appétence aussi au travail sur les médias, comment ça se passe? Ou est-ce que pour vous, c'est justement une espèce... vous avez trouvé cette formation sans forcément... avoir de volonté avant.
Moi pour le coup c'est surtout dû au fait que vu qu'MMI c'est une formation qui est quand même pluridisciplinaire et vu que je savais pas ce que je voulais faire, j'ai quand même trouvé ça vachement utile d'avoir une formation qui propose un grand éventail de différents cours et matières. Et en vrai c'est sympa du coup d'explorer différentes choses et me découvrir au fur et à mesure que j'avance dans cette formation.
Eh ben très bien. Et vous, madame Amy?
Moi, du coup, c'était plus le côté créatif qui m'intéressait depuis très très longtemps. Tout ce qui est artistique, les livres, le dessin et tout, c'est quelque chose que j'adore. Donc du coup, quand j'ai vu MMI et qu'il y avait création graphique, j'ai tout de suite pris, ça m'a tout de suite intéressé.
Et est-ce que vous avez des projections là maintenant et tout votre future vie professionnelle? Si vous aviez le Nec plus Ultra, ce serait quoi pour vous?
Oula, très bonne question. Pour
l'instant. Ok.
On suit le vent.
Oui. Et tiens d'ailleurs, vous qui êtes justement dans l'étude de ces supports digitaux qui sont tout le temps en mutation, en évolution, en développement, ça tombe bien. Justement, comment vous appréhendez ça? Parce que du coup, en 3 ans, durant ces 3 années de formation, la vie, l'internet, il a changé.
Ouais, il y a beaucoup de choses qui changent, notamment surtout au niveau de l'IA, hein, surtout.
Ouais.
C'est sûr que quand je revois mes anciennes entre guillemets réalisations IA, même si c'est pas moi qui fais le travail, quand je regarde mon année par exemple de terminal et que aujourd'hui quand j'ouvre ChatGPT ou Gemini, la différence elle est claire quand même. Il y a quand même énormément de progression. C'est complètement dingue.
Ouais, donc vous êtes tout le temps obligé de vous adapter aussi, quoi, et de suivre, ouais, et de faire une espèce de veille justement sur toute l'évolution de ces outils.
Sur les différentes IA qui sortent, par exemple, je crois qu'il y a peut-être un ou deux ans, Claude, ça n'existait pas encore. Maintenant, il y a plein de gens qui utilisent.
Claude, on le rappelle, c'est pour la médecine, c'est ça ? Pas du tout.
Non, pas du tout. C'est par rapport aux différents. Aspects site web, on va dire.
Ah d'accord, ok. Mais ah, c'est pour ça que j'ai pas réussi mon site alors.
Mais d'ailleurs, que pensez-vous en fait du fait que l'IA devient de plus en plus massif et en fait remplace aussi certains métiers. Ne pensez-vous pas que l'un et l'autre, ça pourrait remplacer l'un de vos jobs plus tard?
Moi, c'est ce qui me fait peur un petit peu, j'ai envie de dire, parce que c'est un outil qui est vraiment surpuissant et ce qui est sûr, c'est que ça va rester. On va pas retourner en arrière, tout reprendre papier et crayon. L'IA, elle est là pour rester. Maintenant, c'est à nous de voir en tant que société comment on va l'utiliser, voir un peu quel domaine on va accepter. Je pense par exemple au domaine de l'art. Est-ce qu'on va accepter les pièces d'œuvres, les œuvres, on va dire, créées par IA? Est-ce qu'on va avoir une réglementation dessus? Je sais qu'il y a quand même pas mal de polémiques du côté des États-Unis par rapport à ça.
Oui, parce qu'aux États-Unis, ils ne protègent pas comme en France. En France, on protège vraiment, enfin en France, en Europe, on essaie de protéger entre guillemets la culture intellectuelle, la propriété intellectuelle, ça, alors qu'aux États-Unis, on laisse dérouler de façon massive. Et puis même leur président se permet de servir de l'IA, donc je veux dire.
Et du coup, alors, dernière question. Alors, face à cette évolution et à l'importance que l'IA va prendre, hein, l'importance qu'il prend déjà dans nos vies et dans les futures années, et par rapport à ces choix de société, comment vous préparez-vous à l'oisiveté alors?
Malheureusement, c'est un peu compliqué de se préparer à ça, dans le sens où justement c'est quelque chose qui est assez aléatoire. On peut pas vraiment prévoir à quel point on va avoir du travail ou pas.
Oui, non, mais attendez, là c'était un peu une question à boutade et tout, quoi. Hein, parce que on espère bien évidemment que vous allez. Enfin, moi, quelque part, j'espère que justement ces évolutions au niveau de la technologie apporteront, pourquoi pas, justement ce qui devrait être depuis des années, c'est-à-dire l'outil devrait être au service de l'homme et non pas l'inverse, quoi. Parce qu'on a l'impression, mm-hmm, des fois, malheureusement, que c'est plutôt l'inverse qui se déroule. Et voilà, pourquoi pas essayer justement que cette IA développe une société de loisirs. Du loisir véritable, ou est-ce que on soit en capacité de faire travailler et de faire produire un revenu universel avec des outils qui ferait qu'on aurait tout le temps de profiter de ce temps, voilà, qui nous est imparti sur la terre et tout, quoi. Donc voilà, une dernière réflexion philosophique de monsieur Naïm.
Tu veux dire un Jarvis version Iron Man qui gère tes affaires pendant que tu vas à la plage?
Je ne sais pas de quoi vous parlez, je me regarde.
Tom, Amy, vous voyez de quoi je veux parler?
Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être pratique.
Et voilà, vous voyez, c'est à ça qu'il faut attendre, bien évidemment. Si on veut, certaines personnes sont intéressées pour intégrer votre formation, comment ça se déroule? Vous pouvez rappeler l'école dans laquelle vous êtes?
Vas-y. Donc c'est l'école, donc le campus d'Elbeuf, la formation BUT MMI. Et c'est comme quasiment toutes les autres formations, c'est via Parcoursup où il faudra s'inscrire et croiser les doigts.
Eh ben super, merci beaucoup Amy et Tom, qu'on retrouvera évidemment au micro de la radio HDR dans la matinale, puisqu'ils sont là durant quelques temps. C'est avec un grand plaisir qu'on leur donnera l'opportunité de nous reparler et de vous reparler dans quelques secondes. On va se plonger dans un univers de vikings, grâce qu'on va vous raconter des histoires, hein, n'est-ce pas? Oh là là, oui, c'est fantastique, bien évidemment, et elles sont là leur starting block, c'est Iman et Sonia qui nous raconteront ça juste après ce petit mix musical.
piano, un mec à poil dans son frigo. Bienvenue au pays merveilleux de l'internet. Tu verras, on est bien, et allez bien, on fait la fête. Ouh, waouh.
Le mix de toute la culture, c'est sur le 99.1.
Du bon sang, de la bonne humeur et des bons plans. Les chroniqueurs au gros cœur, le pire, et ben il reste à venir. Le pire, il reste à venir.
C'est le rendez-vous de la semaine, la 4e édition du court-métrage « Raconte-moi mon histoire ». Et cette année, le projet pose ses valises dans un décor assez impressionnant, la cité immersive viking. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est sur les quais Rive Gauche. Le concept de ce court-métrage est assez simple, ça fait plusieurs années maintenant qu'on le met en place. On prend un monument emblématique de Rouen, un groupe de jeunes, et on mélange le tout pour créer une petite fiction filmée qui sera disponible d'ailleurs sur YouTube. C'est à la fois une visite culturelle et un vrai défi qui donne naissance à une vidéo ludique, pédagogique et surtout créative. Depuis lundi, je suis en immersion totale avec les enfants et leur metteuse en scène Sarah, qu'on salue au passage. On les suit avec Sonia et Naïm d'ailleurs dans les préparatifs jusqu'à vendredi, et je suis allée tendre mon micro pour recueillir toutes leurs premières impressions. Et qu'est-ce que vous attendez de cette semaine ? Hier, la cité immersive. Laquelle votre préférée, toi, donc c'était la dernière ? Vous avez dû récupérer
Et comme j'ai un nouveau peu d'espoir, j'ai choisi du. Et du coup, cette année,
oui, du coup, c'est à rappeler que c'est la 4e édition. de ce court-métrage, qui n'est pas du coup à son premier essai. Il y a eu d'autres courts-métrages qui mettent en valeur d'autres lieux culturels. Là, on se retrouve du coup à la cité immersive Viking avec les enfants durant une semaine. Vous pouvez retrouver les autres courts-métrages du coup sur YouTube en tapant Radio HDR, raconte-moi mon histoire. Il y a aussi les points sur les réseaux sociaux. Vous pouvez découvrir comment on met en place les activités avec les enfants, suivre les enfants durant toute leur petite semaine sur TikTok, qui va bientôt faire paraître tout ça, étant donné que c'est notre nouveau réseau social, et Instagram, bien évidemment. Et aussi, nous avons un petit point promotion, le petit point promotion de Les Pieds dans la Lune, car on a pu participer à une avant-première de C'est quoi l'amour, et du coup on va retrouver un petit peu tout ce descriptif de ce film, les interviews du réalisateur, et bien évidemment on a d'autres invités qui sont Fabien Georgeard, Marie Dubas, et on va un petit peu faire un petit point sur un festival qui va être super cool, le festival de la Turquie. Alors n'hésitez pas à suivre Raconte-moi mon histoire 4 et aussi suivre les réseaux sociaux pour avoir toutes les infos, toute la mise en œuvre de ce gros projet. Et aussi du coup Les Pieds dans la Lune qui va apparaître le dernier vendredi du mois d'avril.
Merci Sonia et Imane pour toutes ces infos. Eh bien, n'hésitez pas à suivre cette aventure. Raconte-moi ton histoire, comme vous venez très bien de le dire, sur nos réseaux sociaux. Il est arrivé en retard, oui, mais avec une coupe de cheveux impeccable, une musculation digne d'un sportif, de bas étage, devrais-je dire. Enfin, de bas étage dans le sens qu'il monte les escaliers de la victoire tous les jours. C'est monsieur JC qu'on va retrouver, non pas maintenant, mais dans quelques instants, autour des résultats sportifs du week-end dernier. Mais c'est un retour que nous fêtons aujourd'hui, puisque, oui, vous l'avez déjà entendu au travers de quelques matinales radiophoniques, au travers de quelques chroniques écrites avec brio, et aussi, à l'heure des comptes, puisqu'il a participé le 26 janvier dernier à la nuit de la lecture, l'une des premières produites par la radio HDR, bien évidemment, on est content de le retrouver. C'est Michel qui est revenu pour le billet. Voilà, j'ai envie de l'intituler comme ça, le billet de Michel, qu'on retrouve juste après ce jingle.
Le pire reste à venir.
8h10. 9h.
Voilà, c'est désagréable à l'oreille, mais enfin c'est bien ce qu'on entend en ce moment sur l'amélioration de fréquence.
Sur HDR et principe actif.
Alors écoutez, pour cette émission absolument improvisée, nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
Le pire reste à venir.
Reste à venir.
Alors nous avons besoin que vous soyez vous aussi les auteurs de cette émission, que vous fassiez preuve vous aussi d'une certaine imagination créatrice.
8h10, 9h.
Bonjour à tous et à toutes. Nous pouvions lire déjà cet esprit que vous mangez du sucre en Europe. Ces mots qui datent de 250 ans en arrière sont ceux de Voltaire, exposant dans Candide la souffrance des Noirs, esclaves dans les exploitations de canne à sucre. On a perdu Quentin. C'est l'histoire triste, encore une, réelle, d'un gars qui n'aurait pas dû mourir. Au XXIe siècle, en France, plus personne ne devrait mourir au travail. On a perdu Quentin. Un petit livre court, facile à lire, mais où chaque phrase se ressent comme un uppercut en pleine face. Un livre où tous les mots sont adultes. Un livre sans haine, mais où la colère, plus légitime que jamais, s'entend et s'écoute à chaque page. On a perdu Quentin. Du sucre, alors nous en avons partout, à toutes les sauces. Ah, tant pis si on se nique les dents dès l'enfance grâce à lui. Mon gamin a encore fait une crise d'acétone cette nuit. Il va bien s'en remettre. Et pour le diabète de Pépé, et Pépé il nous dit mourir de ça ou d'autre chose. Allez, prenons du plaisir. Le sucre, un si doux poison. Ah, par contre, nous sommes toutes et tous d'accord. Personne ne doit mourir au travail. Pourtant, on a perdu Quentin. 764, un chiffre. Un chiffre incomplet puisqu'il n'inclut pas les accidents de trajet. Chaque jour, dimanche et jours fériés compris, et même le 1er mai, 3 personnes décèdent suite à un accident survenu sur leur lieu de travail. En France, 764. C'est le nombre d'accidents mortels au travail survenus en 2024. En 2023, c'était 759. Depuis 10 ans, ce nombre ne cesse d'augmenter. Et pour 2025, les chiffres n'ont pas encore été publiés. Dégradation importante, flagrante, sans précédent depuis 1945 et le Conseil national de la résistance des conditions de travail en France. On a perdu Quentin. Alors quel rapport avec le sucre? Dans son livre, On a perdu Quentin, Éric Louis nous parle, raconte Quentin. Quentin était cordiste. Alors il allait casser du sucre dans les énormes silos. Alors les silos, ils font entre 10 et 15 mètres de hauteur. C'est comme un petit immeuble de trois étages, pour vous donner une idée. C'est dans un silo comme celui-ci qu'on a perdu Quentin. Alors, vous me parlerez mécanique des fluides, de gravité, cela devrait couler tout seul, comme du sucre sur du sucre, bien entendu. Parfois, presque tout le temps, en fin de compte, le sucre, c'est rebelle et révolutionnaire. Ça colmate, s'agrège, résiste. Il ne veut pas finir dans votre café, la confiture de votre mémé, et pire encore, dans un soda. Finalement, le sucre voudrait protéger votre santé. Et alors? Alors l'industriel, le patron, n'est pas d'accord du tout. Il faut rentabiliser, quoi qu'il en coûte en humanité. Alors, le sucre, il faut aller le dégager, à coups de pioche et de pelle. C'était le 21 juin 2017. Ce premier jour du solstice d'été à Châlons-en-Champagne, la température extérieure sous abri était de 36 degrés. Dans le silo, il en faisait au moins 45. Ce jour-là, c'est comme ça qu'on a perdu Quentin. En 2025, Lorenzo, Axel, Lucas, tous mineurs, tous morts pendant leur stage en entreprise. Un engin de chantier, une palette ou une poutre les ont tués. En moins de 2 mois, ces gamins sont morts. Alors, utile et sécurisant les stages de seconde? Ça dépend des relations de ton papa et ta maman. Et Mathis, 19 ans, mort, enseveli sous du goudron à 200 degrés. Ça, c'était le 15 juillet 2025. Et les femmes, ne meurent-elles pas aussi au travail? Bien sûr, mais les statistiques sur la mortalité des femmes au travail sont introuvables, appelle à monsieur le ministre. Quels sont les facteurs qui augmentent à ce point cette mortalité au travail? La précarité et le manque de formation. À Paris, un luron veut nous construire encore et encore des centrales atomiques. Ça c'est l'histoire des 40 ans de Tchernobyl. Je voulais parler de centrales atomiques pour notre indépendance énergétique. En 2017, ce même luron nous disait déjà « La vie d'un entrepreneur est souvent plus dure que celle d'un salarié. » Ah bon? Bien sûr, la tristesse mêlée à la colère et la rage nous gagne en entendant les histoires de Lorenzo, Axel, Lucas, Mathis et bien d'autres. Et de celle de Quentin. Je suis certain qu'ils ne voudraient pas que nous fassions la gueule, comme on dit. Au contraire, c'est plus que jamais le moment de retrousser nos manches, de lutter, de lire, d'aller au concert, au théâtre, d'apprendre, de nous cultiver et écouter la radio. Alors on a perdu Quentin, n'est plus disponible en librairie. Le tirage est épuisé. Le réseau des bibliothèques de Rouen ne l'a pas acquis. Pas grave, mes amis. Le livre « On a perdu Quentin » d'Éric Louis, vous pouvez le télécharger en toute légalité sur le site de l'éditeur, les éditions du commun. Alors maintenant, à vous de jouer. À bientôt.
Merci beaucoup Michel pour ce magnifique billet. On vous retrouve évidemment autour de nouvelles chroniques très bientôt, on l'espère, dans Le pire reste à venir. Make that motherfucker Le pire reste à venir. 8h54 sur les ondes du mix des cultures. C'est deux salles, deux ambiances là. Après ce magnifique billet de Michel, on retrouve les résultats sportifs animés avec brio par monsieur JC qui va nous dire bonjour, bien évidemment, pour entendre la chaleur de sa voix.
Bonjour, bonjour à mes auditeurs et auditrices.
Alors, il est 8h50 passé, c'est l'heure de la chronique sport. Alors on commence par quoi ce matin, cher JC? Il paraît que ça a chauffé sur les terrains du rugby.
Oui, on commence par le rugby Normandie. Rugby face au SOC Rugby Chambéry. Le score est de 24 à 34. C'est une défaite, mais on était polis, on a laissé gagner les invités.
C'est ça, la bienséance, bien évidemment. Heureusement, chez les femmes, ça s'est mieux passé, je crois.
Ah là, Nicolas, c'est du lourd. Ouais. Les Valkyries Normandie ont joué samedi contre l'AS Biarrosse. Victoire nette 28 à 12. À ce niveau-là, ce ne sont plus des Valkyries, ce sont des tornades.
Ah là là, magnifique. On quitte le gazon pour le parquet. Quoi de neuf au basket?
Alors là, sortez les calculettes. Les M1 de Haut-de-Rouen Basket ont fait exploser le compteur. Victoire de 108 à 75 contre Union Sportive Barqueville.